Bonjour tout le monde, je m'appelle Marie-Vincent et aujourd'hui j'ai la chance de parler avec Marie-Michèle Doucet. Bonjour Marie-Michèle Doucet, comment allez-vous?
Bien, merci. Merci beaucoup de me recevoir.
Alors, Madame Doucet est la directrice du département de l'histoire au Collège militaire royal du Canada. Elle était spécialisée dans l'histoire de la France, de la Première Guerre mondiale, dans l'histoire de la paix et des mouvements pacifistes et plus encore. Aujourd'hui, je rencontre Madame Doucet pour discuter de la Première Guerre mondiale. Donc, à propos des causes de la guerre, du déroulement de la guerre, des impacts de l'industrialisation et de l'après-guerre. Alors, je vais commencer avec la première question. Donc, il y a eu plusieurs rivalités économiques, donc politiques, territoriales, avant la Première Guerre mondiale, entre plusieurs puissances. Donc, identifiez ces rivalités et de quelle manière cela affecte le déclenchement de la guerre.
La Première Guerre mondiale, souvent on va entendre que c'est l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand qui a provoqué la Première Guerre mondiale. Quand je l'enseigne à mes étudiants, j'explique que c'est surtout la goutte qui a fait déborder le vase. Parce que bien avant l'assassinat de l'archiduc, qui était l'héritier de la couronne de l'Empire austro-hongrois, il y avait plusieurs tensions qui existaient entre les différents empires européens. Il faut savoir qu'à cette époque-là, avant la Première Guerre mondiale, l'Europe, c'est une Europe d'empires. Il y a plusieurs grands empires, l'Empire français, l'Empire anglais, l'Empire allemand, l'Empire russe, l'Empire ottoman, l'Empire austro-hongrois, qui dirigent une bonne partie de ce territoire-là. Et ces empires-là, avant la guerre, se rivalisent sur plusieurs niveaux. Vous avez sans doute déjà entendu parler, par exemple, de la course aux armements. On entre surtout la Grande-Bretagne et l'Angleterre qui essayent d'avoir le plus de bateaux dreadnought, qui sont les bateaux militaires de l'époque qui sont privilégiés et donc qui vont se faire une course aux armements, ce qui va provoquer des tensions entre la Grande-Bretagne et l'Angleterre à ce moment-là. Mais une chose qu'on sait peut-être moins, c'est que des pays comme la France et la Grande-Bretagne sont également très, très rivales. On s'attendait pas, disons, quelques années avant la Première Guerre mondiale, qu'ils se retrouvent du même côté, sur la même alliance lorsqu'éclate la Première Guerre. C'est quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas vu venir parce que ces deux pays-là vont se rivaliser plusieurs territoires sur le continent africain. Et il y a même des guerres qui éclatent presque entre la Grande-Bretagne et la France à ce moment-là pour des questions territoriales, pour des questions impérialistes. La France et la Grande-Bretagne, à la fin des années ou au début des années 1900, vont tous les deux se mobiliser en préparation d'une guerre qui aurait lieu entre les deux pays sur le continent africain. Donc, c'est seulement vraiment au début du 19e siècle qu'on voit à travers une série de traités, parfois militaires, parfois diplomatiques, certains pays se rapprochaient. Par exemple, l'Allemagne et l'Autriche vont se rapprocher par un traité militaire dans lequel ils se donnent un accord, ils vont se protéger mutuellement l'un l'autre si nécessaire. De l'autre côté, les traités qui vont unir la France, la Grande-Bretagne et la Russie ne sont jamais militaires. En fait, ce sont des traités qui cherchent à régler des conflits d'abord territoriaux. Pour la France et la Grande-Bretagne, régler les conflits sur le territoire africain. Pour la Grande-Bretagne et la Russie, c'est régler des conflits sur le territoire du Moyen-Orient. Et pour la France et la Russie, ben, eux, ils ont un traité militaire dans lequel ils se protègent tous deux contre une possible attaque contre l'Allemagne. Donc, il y a plusieurs tensions qui existent avant la Première Guerre mondiale qui auraient pu complètement changer les cartes. S'il y avait une guerre qui avait éclaté entre la France et la Grande-Bretagne sur le continent africain, on aurait complètement changé les cartes. Donc, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, c'est vraiment la goutte qui fait déborder le vase, mais à ce moment-là, ça aurait pu être n'importe quoi ou presque, parce que les tensions étaient tellement grandes entre les diverses nations qui existaient. Une petite parenthèse avant que je termine sur cette question, c'est qu'il y avait aussi plusieurs liens familiaux. Le tsar de Russie et l'empereur allemand et le roi d'Angleterre étaient tous des cousins. Et ben, c'est finalement la Première Guerre mondiale, c'est une guerre entre cousins. Jusqu'à la toute dernière minute, Nicolas II, tsar de Russie, et Guillaume, l'empereur d'Allemagne, vont s'envoyer des lettres jusqu'à la journée où ils lancent la mobilisation dans chacun de leur pays. Vont s'envoyer des lettres où ils se parlent, cher cousin, bien à vous, mon cher cousin. Où ils essayent de régler en quelque sorte différentes leurs deux pays, mais finalement ils vont se retrouver là d'un côté et de l'autre de la Première Guerre mondiale. Donc c'est énormément de tensions en Europe à la veille de la Première Guerre mondiale et on attendait juste qu'il y ait une flamme qui vienne faire exploser là, toutes ces tensions là qui existaient.
Je savais pas qu'ils étaient cousins, c'est intéressant à savoir ça.
Effectivement. Donc si vous allez voir aussi là, l'empereur Nicolas II et le roi d'Angleterre, ils se ressemblent énormément. Ils ont vraiment, on peut voir là, qu'ils ont des liens familiaux.
Donc si je vais plus sur l'aspect du déroulement de la Première Guerre mondiale, expliquer la fin de la guerre et identifier les vainqueurs de la guerre et quelle puissance est retenue coupable de cette guerre.
C'est une question qui est très, très complexe. Déjà, pour répondre à qui est reconnu coupable, le traité de Versailles, qui est signé en 1919 entre les pays vainqueurs et l'Allemagne, reconnaît que l'Allemagne est l'unique responsable de la Première Guerre mondiale. Donc, selon les traités de paix, l'Allemagne est l'unique responsable. Lorsque j'enseigne la guerre à mes étudiants, je leur demande, eux, après leur avoir expliqué le déroulement de la guerre, qui est-ce qu'ils pensent être responsable de cette guerre-là? Et les réponses sont souvent beaucoup plus nuancées. Oui, l'Allemagne tient sa part de responsabilité pour avoir, disons, provoqué plusieurs des tensions qui existaient dont on parlait juste avant la guerre, mais d'autres pays peuvent aussi être tenus responsables. Mais bien sûr, on le sait, l'histoire, c'est souvent écrit par les vainqueurs. Et donc, quand les vainqueurs se retrouvent autour de cette table de négociation-là pour discuter de la paix, ben, ils vont mettre le blâme sur l'Allemagne et demander à l'Allemagne des réparations très, très importantes. Maintenant, qui est vainqueur de la Première Guerre mondiale? Ben, bien sûr, ce sont les pays alliés, donc la France, la Grande-Bretagne et la Russie et les États-Unis qui entrent en guerre en 1917 aux côtés des alliés, ainsi que l'Italie qui entre en guerre aux côtés des alliés en 1915, sont ceux qui sont vainqueurs. Si on allait en Allemagne en 1919, par contre, ils auraient une autre version de cette histoire-là. Parce que, contrairement à d'autres guerres dans l'histoire qui se sont terminées avec des grandes batailles décisives, on n'a pas cette même grande bataille pour la Première Guerre mondiale à la fin de la guerre. Il y a des grandes batailles comme la bataille de la Somme, qu'on connaît bien nous du côté canadien, qui vont être extrêmement importantes. Mais à la toute fin de la guerre, c'est plutôt une avancée qui pousse les Allemands jusqu'à retourner jusqu'en Allemagne. Et donc, la guerre se termine un peu dans ce sens-là. Donc, il n'y a pas une grande bataille, là, comme on peut penser, par exemple, à l'époque napoléonienne, la bataille de Waterloo, Napoléon est vaincu et donc la guerre se termine. Il n'y a pas ce genre de bataille décisive-là à la fin de la Première Guerre mondiale. Pour les Allemands, plusieurs généraux allemands, mais aussi plusieurs membres de la population allemande à ce moment-là, ils vont dire que finalement, ce n'est pas une victoire décisive pour les Alliés. Ils vont contester beaucoup aussi le traité de Versailles et d'être blâmés pour seul responsable de cette guerre-là. Donc, cette question de qui est responsable va faire couler énormément d'encre après la guerre. Et encore aujourd'hui, hein, on a des ouvrages plus contemporains. Par exemple, une historienne qui s'appelle Zara Steiner, qui a publié d'immenses livres sur la période de Première Guerre jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, qui, elle, vient nuancer et dire que c'est pas que l'Allemagne qui est responsable pour la guerre. Donc, c'est une question qui devient difficile, qui va aussi mener après la guerre, à la montée, par exemple, d'États fascistes en Europe et à la prise de pouvoir d'Adolf Hitler, qui va utiliser cette idée-là que l'Allemagne n'a jamais été vraiment vaincue et que les dirigeants allemands qui ont signé le traité de Versailles ont trahi l'Allemagne et donc va se servir de ce discours-là pour arriver au pouvoir. Donc, c'est une question qui, selon de quel côté on regarde cette histoire-là en 1919, on va avoir une différente interprétation, mais bon, dans les livres d'histoire, on s'entend pour dire que ce sont les Alliés qui ont remporté la guerre et il n'y a personne qui conteste ça là, aujourd'hui, mais à l'époque, c'était plus difficile pour les Allemands d'accepter cette défaite-là.
Vous avez mentionné l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, donc explique comment l'entrée des États-Unis a affecté la guerre et précisé sur les raisons stratégiques de leur alliance.
Les États-Unis, c'est très intéressant parce que pendant la guerre, ils ont une élection. Le président américain qui va se faire réélire, c'est le président Woodrow Wilson. Et le président Woodrow Wilson, lui, sa plateforme électorale, c'est qu'il va garder les États-Unis hors de la guerre. Les États-Unis sont très isolationnistes. Ils ne veulent pas se mêler de ce qui se passe sur le continent américain. Par contre, il y a certaines choses qui se passent pendant la guerre qui vont les faire un peu changer d'idée. Par exemple, le bateau Lusitania qui transportait plusieurs citoyens américains qui est coulé par des sous-marins allemands. Il va aussi avoir toute l'histoire du télégraphe Zimmermann qui, lui, va faire douter finalement d'une possible attaque provenant du Mexique par les Allemands sur les États-Unis qui va venir un peu chambouler l'opinion des États-Unis sur cette guerre-là. Donc, pendant une bonne partie de la guerre, les États-Unis restent plutôt comme spectateurs plutôt qu'acteurs actifs. La propagande va être largement en faveur des Alliés. À cette époque-là, les États-Unis vont envoyer, par contre, au début de la guerre, de l'argent un peu aux deux côtés sans prendre position. Par contre, quand on arrive en 1917, le président Wilson Chine, suite à la pression populaire, décide d'entrer en guerre du côté des Alliés. Les Alliés, en 1917, il faut savoir qu'ils sont en période assez difficile. L'Allemagne est en train de prendre le dessus sur les forces alliées. Les troupes alliées sont extrêmement fatiguées. Il faut imaginer que les Français, les Anglais, les Canadiens même sont là depuis maintenant presque 4 ans à combattre sans arrêt, sans répit. Et donc, les forces sont extrêmement fatiguées. En France, par exemple, on a beaucoup de mutineries au sein de l'armée française, c'est-à-dire que les soldats français décident de ne plus vouloir combattre et fuient le front, tout simplement. Et donc, plusieurs d'entre eux vont être arrêtés, exécutés pour avoir fui le front. Et donc, on voit qu'il y a un gros problème de morale également. Les soldats qui combattent commencent à perdre le moral. Donc, l'entrée en guerre des États-Unis en 1917 va venir redonner, en certain sens, comme un boost de morale pour les Alliés qui se disaient, cette guerre-là, elle finira jamais, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, les États-Unis, même s'ils arrivent dans la guerre très, très tard et que leur participation est assez réduite, si on veut, parce que les premiers soldats américains qui arrivent en Europe, c'est en 1918, puis la guerre se termine en novembre 1918. Donc, ils sont là que quelques mois. Le simple fait d'avoir ce renfort-là et de savoir qu'ils ont un nouvel allié qui arrive frais, pas fatigué comme eux, ça va leur redonner un certain boost de morale qui va pousser les Alliés à faire leur dernière avancée et à terminer la guerre, comme je viens de l'expliquer, en repoussant les troupes allemandes. Donc, pour les Alliés, c'est assez important parce que non seulement est-ce qu'ils apportent avec eux des nouveaux hommes qui sont prêts à se battre, des nouveaux armements, aussi de l'argent, ils apportent également une nouvelle montée là, de morale qui va être extrêmement importante. Et les États-Unis, ils vont se positionner en sachant très bien que maintenant les Alliés ont besoin d'eux, ils vont se positionner comme ceux qui vont décider de ce que la paix va être après la guerre, parce que sans eux, les Alliés auraient sans doute eu beaucoup plus de difficultés à perdre la guerre. Donc, ça leur permet à eux aussi de se positionner dans une place de pouvoir pour justement pouvoir être ceux qui décident de ce à quoi la paix va avoir l'air après la guerre.
Merci pour la réponse. Pour aller plus sur l'aspect de l'industrialisation, maintenant que les hommes étaient à la guerre, il n'y avait plus personne dans les usines, par exemple. Donc, comment est-ce que les femmes et les enfants y ont affecté l'industrialisation pendant la Première Guerre mondiale?
C'est une question qui est très intéressante parce que souvent, on va dire que la Première Guerre mondiale a permis aux femmes d'entrer sur le marché du travail. Déjà au départ, je veux dire que ça, c'est faux. Les femmes étaient déjà sur le marché du travail bien avant la Première Guerre mondiale. Plusieurs industries, dont celle du textile, celle du travail ménager, les bonnes dans les maisons. Les femmes travaillaient déjà hors de la maison avant la Première Guerre mondiale. Ce que la Première Guerre mondiale va faire, par contre, c'est que ça va ouvrir des portes à des métiers auxquels elles n'avaient pas accès avant la guerre. Ce qui est intéressant, par contre, qu'il faut qu'il remette un peu dans son contexte, c'est que les sociétés en guerre vont vouloir se tourner vers à peu près tout le monde avant d'aller chercher les femmes. Donc, les hommes âgés qui n'ont pas été en mesure d'aller se combattre, les hommes qui ne pouvaient pas combattre à cause de, je ne sais pas, pieds plats ou quelconque problème physique. Les jeunes hommes de, disons, 14 à 17 ans qui ne pouvaient pas encore être enrôlés, on va vouloir aller chercher à peu près tout le monde avant d'aller chercher les femmes. C'est seulement à partir de 1915, quand on voit qu'il y a un problème d'approvisionnement des munitions sur le front, qu'on va se dire, OK, il faut trouver une autre solution. On a épuisé à peu près tout le monde qu'on avait pour travailler et on a encore besoin de plus de gens pour faire certains travaux. Et donc, on va aller chercher les femmes qui vont, elles, entrer en grande force, soit dans les industries, dans les usines d'approvisionnement, vont devenir mécaniciennes, vont devenir conducteurs d'autobus. Donc, ça va leur ouvrir la porte à plusieurs métiers et vont être extrêmement importantes pour justement permettre l'approvisionnement au front de munitions qui n'aurait pas été possible sans cette main-d'œuvre-là. Par contre, à la fin de la guerre, et ça, c'est aussi important de le dire, les femmes vont retourner chez elles. Quand les hommes reviennent du front, ils veulent retrouver leur métier d'avant-guerre, ils veulent retrouver la vie d'avant-guerre. Et donc, plusieurs femmes qui avaient trouvé une certaine liberté, si on veut, en entrant dans des métiers qui leur étaient pas ouverts, vont devoir quitter ces métiers-là et retourner à la maison. Et ce serait faux là, de penser que la guerre a permis aux femmes de rester dans tous ces métiers-là sans qu'elles aient besoin d'abandonner. Et ça, c'est faux. En fait, la majorité des femmes vont retourner à ce qu'elles faisaient avant la guerre. Plusieurs d'entre elles meurent à la maison. Et donc, est-ce que la guerre a permis aux femmes de s'émanciper sur le marché du travail? Oui, mais après la guerre, on a un certain recul quand même qui se produit.
Et c'est comme pour les enfants. Comment eux ont été affectés pendant la guerre?
Les enfants, certains d'entre eux vont se retrouver sur le marché du travail. C'est plus rare, par contre, que les enfants se retrouvent dans les usines. Maintenant, quand je parle d'enfants, les adolescents, oui, ils vont travailler dans les usines, mais les enfants, enfance, eux, un peu moins. Par contre, les enfants vont être affectés par la guerre de plusieurs façons. On peut penser, par exemple, à l'absence du père. Plusieurs enfants qui, dont le père part quand ils sont très jeunes, n'auront pas de père dans leur vie quotidienne. C'est que seulement quelqu'un à qui ils écrivent des lettres ou qui voient en photo ici et là ou qui ont la chance de rencontrer pendant certaines permissions quand les hommes viennent visiter du front, ce qui est quand même assez rare également. Donc, la vie familiale que ces enfants-là vont connaître est très, très différente. Il y a aussi toutes les pénuries alimentaires qui vont être extrêmement difficiles. Plusieurs enfants qui doivent vivre avec beaucoup moins de nourriture qu'on avait avant la guerre. En France, ils vont faire, par exemple, un concours pour les enfants pour que les enfants dessinent des affiches de propagande pour encourager d'autres enfants à sacrifier certaines choses. Par exemple, on voit l'enfant manger moins de bonbons. C'est comme ça qu'eux perçoivent la guerre. Ils le voient d'un regard enfantin, mais qui aussi est très, très représentatif de leur expérience à eux. Il y a aussi les enfants qui habitent plus près du front. On peut penser les enfants dans le nord de la France, par exemple, qui vont vivre sous l'occupation allemande, qui vont voir la violence de guerre au quotidien. Les enfants qui habitent dans les grandes villes comme Paris, Londres, Berlin, qui vont subir les bombardements au quotidien. Donc, il y a une définitive des aspects qui sont très, très intéressants sur la façon dont la guerre va avoir un impact sur l'enfance de plusieurs personnes.
Si j'amène le sujet de l'après-guerre, donc vous avez mentionné que techniquement l'Allemagne était accusée comme coupable. Donc, quelles sanctions économiques, territoriales et politiques ont été imposées à l'Allemagne après la guerre?
Ils vont avoir, le traité de Versailles, c'est un de plusieurs traités qui sont signés après la Première Guerre mondiale. C'est celui qui touche spécifiquement à l'Allemagne. Et il va toucher à l'Allemagne de trois grandes différentes façons, si on veut. Déjà, à la base, il va avoir les conséquences militaires. L'Allemagne doit se démobiliser. L'Allemagne doit réduire son armée à environ 100 000 hommes, ce qui est considéré comme suffisant pour protéger ses frontières. Ils vont devoir donner la très grande majorité de leur flotte. Leur flotte navale va aller à la Grande-Bretagne, qui va s'approprier plusieurs des bateaux. Avant la guerre, on avait dit qu'il y avait une compétition pour qui allait avoir le plus de bateaux, le Dreadnought. Plusieurs de ces bateaux-là vont être donnés à la Grande-Bretagne à la fin de la guerre. L'Allemagne doit également complètement démobiliser et désarmer une région, c'est celle de la Rhénanie, qui devient une région, si on veut, là, une zone tampon entre la France et l'Allemagne. Donc, c'est une zone qui est complètement démilitarisée. Donc, plusieurs conséquences militaires. Maintenant, territoriales, l'Allemagne doit retourner aux frontières d'avant-guerre, donc tous les territoires qu'ils avaient conquéris pendant la guerre, par exemple, occupés, je devrais plutôt dire, pendant la guerre. Donc, par exemple, le nord de la France doit être retourné à la France, mais ils vont aussi devoir faire certaines concessions territoriales qui prédatent la Première Guerre mondiale. En 1870, après la guerre franco-prussienne, la France avait perdu l'Alsace et la Lorraine au Nouvel Empire allemand, et l'Alsace et la Lorraine, après la Première Guerre mondiale, va être retournée à l'Allemagne. Du côté plutôt est, on va voir la création de plusieurs nouveaux pays. On pense par exemple à la Pologne qui obtient son indépendance, à la Tchécoslovaquie, maintenant aujourd'hui République tchèque et Slovaquie, mais qui voit le jour suite au démembrement de l'Allemagne territoriale. Donc l'Allemagne va perdre plusieurs territoires. Maintenant, du côté économique, le traité de Versailles, en fait, c'est intéressant parce que le traité de Versailles ne va pas établir un montant spécifique que l'Allemagne doit rembourser. C'est écrit dans le traité de Versailles que l'Allemagne va rembourser un montant au pays vainqueur, mais ce montant-là n'est pas spécifié. Donc, ce que l'Allemagne signe en 1919, c'est en quelque sorte un chèque en blanc. C'est-à-dire qu'ils disent oui, on va rembourser un montant qui va être déterminé plus tard, mais on ne sait pas ce que sera ce montant-là. Et donc, après les conférences de paix, il y a des conférences qui vont avoir lieu pour déterminer le montant que doit rembourser l'Allemagne au pays vainqueur, et ça va être établi à plusieurs milliards de francs marques. Mais il va devoir rembourser un montant qui est quand même assez énorme. Mais comme ils avaient déjà signé en 1919 qu'ils s'engageaient à rembourser, lorsqu'en 1921 le montant est finalement établi, ils n'ont pas le choix de rembourser ce montant-là aux pays alliés, ce qui va créer en soi plusieurs autres problèmes après la Première Guerre mondiale.
Et pour ramener encore le sujet des États-Unis, expliquer les conséquences négatives et positives économiques, militaires et politiques de la Première Guerre mondiale pour eux.
Les États-Unis, c'est un moment qui est vraiment important pour leur histoire à eux, parce que pendant la guerre, les États-Unis vont devenir en quelque sorte la banque des pays européens. C'est-à-dire que les pays européens qui ont besoin d'avoir des fonds pour acheter des armements ou pour avoir ce qu'ils ont besoin là, pour mener la guerre, ils vont faire plusieurs emprunts aux États-Unis. Et donc, les États-Unis vont sortir de la guerre dans une position de pouvoir. Je vous l'avais déjà dit, il rentre en guerre sachant très bien qu'il se positionne de façon assez importante pour l'après-guerre. Mais le fait qu'ils ont prêté énormément d'argent aux pays européens fait en sorte que, ben, ils sont dans une position de pouvoir. C'est-à-dire, ils savent que les pays européens leur sont redevables. Et donc, les États-Unis, pendant la conférence de paix, Woodrow Wilson va être un de ceux qui va être parmi là, les trois grands dirigeants de cette conférence de paix avec Lloyd George de la Grande-Bretagne et Georges Clemenceau de la France. Mais les États-Unis vont aussi, après les conférences de paix, établir un système de remboursement en Europe parce que leur objectif aux États-Unis, en fait, c'est que l'Europe se reconstruise aussi rapidement que possible pour qu'ils puissent ravoir leur argent aussi rapidement que possible. Donc, après la guerre, ils vont organiser plusieurs ententes économiques qui vont leur permettre de retrouver leur argent. Mais ça, ça va faire en sorte que les États-Unis vont sortir de la guerre comme la plus grande puissance mondiale du côté économique. Et on sait qu'encore aujourd'hui, les États-Unis sont très, très importantes sur le plan mondial. Quand on parle d'économie mondiale, ben ça date là, de la Première Guerre mondiale, de cette période-là, où ils ont pu s'établir vraiment comme les banquiers de l'Europe. Et après la guerre, ben, cette position de pouvoir-là va perdurer puis va les placer vraiment dans une position économique importante.
C'était ma dernière question pour vous. Donc, je vous remercie d'avoir accepté de participer à l'entrevue et je vous souhaite une excellente journée.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.